Bonjour et bienvenue dans Une Génération de Retard pour le 7e épisode du podcast où l'on s'impose des rattrapages de jeux vidéo à notre rythme parce qu'il n'y a pas le feu au pad. Salut Thomas.
Salut Thomas. Et aujourd'hui, on va avoir un concept similaire à celui de l'épisode 6, dans lequel on avait un point commun entre les deux jeux, puisqu'il s'agissait de deux jeux de deux jeux canadiens.
J'ai cru que tu allais dire de deux jeux Nintendo.
Non, quand même pas. Et aujourd'hui, autre point commun entre les deux jeux qu'on s'est mutuellement imposés, puisqu'il s'agit de deux jeux de type FPS, donc des first-person shooters.
Des Doom-like.
Est-ce que c'est la première fois qu'on parle de FPS? Il me semble bien. Bah, hein.
Killer 7 avait des éléments de FPS, mais bon, il était tellement sur Orbit et sur Pluton que...
Je pense qu'on peut le mettre dans une case à part.
Ouais, c'est ça.
Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par le jeu que je t'ai imposé, puisque c'est le plus vieux des deux, il s'agit de BioShock.
Et c'est là qu'on voit que t'es quelqu'un de plus jeune que moi, puisque tu me recommandes, ou tu m'imposes plutôt, des jeux à chaque fois qui sont plus récents que ceux
c'est
que
vrai,
moi je
c'est
t'impose.
Vrai, surtout le mois dernier, où là c'était très récent. Ouais. Donc BioShock sera le premier jeu, suivi de Doom, mais attention, Doom 2016, pas le tout premier Doom, mais le reboot de Doom, sorti donc en 2016. On va commencer par parler de BioShock et ce sera juste après ça. Donc, BioShock est un jeu sorti le 21 août 2007 sur PC et Xbox 360 d'abord, puis un an plus tard sur PS3, développé par un studio qui s'appelle Irrational Games, mais qui, pour l'anecdote, ne s'appelait pas Irrational Games à l'époque de la sortie de BioShock, puisqu'il a été renommé pendant quelques années en 2K Boston, juste après l'acquisition par l'éditeur 2K Games, éditeur donc qui a publié BioShock. C'est un studio que certains d'entre vous connaissent peut-être pour avoir notamment fait un jeu assez célèbre de, je crois, 99 ou 2000 qui s'appelle System Shock 2, dont BioShock est une sorte de suite spirituelle.
Du même créateur d'ailleurs.
Du même créateur de Ken Levine, exactement. Le studio, alors j'allais dire n'existe plus, si, mais il a en tout cas été renommé en Ghost Story Games. Et ils ont annoncé un jeu assez récemment, c'était au Game Awards 2022, donc il y a à peu près un an. Et le jeu s'appellera Judas, et de ce qu'on en a vu pour l'instant, ça ressemble fortement à BioShock, mais dans l'espace. Et donc c'est de ce premier BioShock dont on va parler, je dis premier puisque le jeu a eu droit à deux suites, BioShock 2 en 2010, pas développé par Irrational Games, mais développé par 2K Marin. Puis ensuite, en 2013, BioShock Infinite, cette fois repris par Ken Levine et Irrational Games, qui conclut un petit peu la trilogie et qui a d'ailleurs beaucoup de liens narratifs avec le premier BioShock. On va commencer par la question traditionnelle. Comment se fait-il que tu n'aies jamais joué à BioShock jusqu'à maintenant ?
Ben alors, contrairement à l'épisode précédent où j'ignorais l'existence de The Messenger avant que tu me l'imposes, même s'il était dans ma bibliothèque Epic, bien sûr, bien évidemment que je connaissais BioShock. Je crois même que j'avais la trilogie dans mon catalogue de jeux.
Ça, c'est quelque chose de récurrent. Hein,
oui.
Vous aurez remarqué.
On a une pile of shame assez imposante l'un comme l'autre. Mais donc, bien évidemment que je connaissais BioShock, mais je ne l'avais jamais fait. Je sais pas trop pourquoi. C'est un genre que j'aime beaucoup, le FPS. J'ai peut-être un peu plus de réserve sur les FPS à forte connotation narrative. Et donc, même.
Bon, toi, t'aimes juste shooter des trucs, finalement.
Bah, moi, c'est Doom, quoi. C'est dans mon ADN. Donc. Je sais pas. Je l'avais lancé il y a plusieurs années. en me disant qu'il fallait quand même, une fois que je m'attaque à ce qui est souvent décrit comme un monument du jeu vidéo et encore plus un monument du FPS. Et donc je l'avais lancé il y a quelques années, mais c'était avant la sortie du remaster du premier BioShock. On aura l'occasion d'ailleurs de reparler de la qualité de ce remaster. Et puis il fallait remapper les touches. Je me souviens que les directions étaient un peu pétées. Il fallait télécharger des mods. Puis ça me les avait un peu brisés. Moi j'aime bien mettre la cartouche dans ma Nintendo 64 et pouvoir jouer directement, tu vois.
Le plug and play.
Ouais, pourtant je suis bricoleur, mais là ça m'ennuie un peu. Et je m'étais dit que l'heure n'était pas venue de faire BioShock. Et grand bien m'en a pris, puisque ça t'a permis.
Ça nous donne de la matière pour ce podcast, exactement.
Donc c'était avec plaisir que je faisais ce jeu que j'avais toujours eu l'ambition de faire une fois.
Très bien. Pour situer peut-être un tout petit peu le synopsis du jeu, c'est un jeu qui se passe dans une réalité alternative dans les années 1960. On dirige un personnage nommé Jack qui se retrouve dans un crash d'avion. L'avion dans lequel il était se plante dans un océan. Je ne sais pas si on dit lequel d'ailleurs, mais dans un océan. Il arrive à nager jusqu'à un phare et il va découvrir dans ce phare un chemin jusqu'à une cité sous-marine du nom de Rapture, qui est une cité créée par un personnage du nom de Andrew Ryan, qui était une sorte de visionnaire qui voulait créer une utopie pour continuer à faire progresser l'humanité loin des contraintes des gouvernements mondiaux.
Ouais, donc le personnage ne trouve pas vraiment un chemin, il trouve un submersible
qui le mène dans la cité, exactement. Et il se trouve qu'entre le moment de la création de cette ville sous-marine et le moment où notre personnage y pénètre, on se rend compte qu'il y a des choses qui se sont un petit peu mal passées. On est plus proche de la dystopie que de l'utopie, puisque dans l'univers du jeu, une substance nommée Adam a été découverte. Et cette substance a conduit à une forme de modification génétique des habitants qui se nomme les plasmides et qui donne toutes sortes de pouvoirs surnaturels aux personnes qui en prennent. Et l'effet néfaste de tout ça, c'est que ça a fait décliner la santé mentale des habitants de la ville et la cité est devenue peu à peu tout à fait chaotique. Ce qui fait que quand notre personnage arrive, il débarque un petit peu comme ça dans cette ville en proie au chaos et à la folie de ses habitants. On est contacté rapidement par un personnage qui se prénomme Atlas et qui va communiquer avec notre avatar par radio et il va essayer de le guider, à essayer de s'en sortir et de comprendre ce qui se passe dans cette ville. Donc voilà un petit peu pour l'univers du jeu. Comme tu l'as dit, c'est un FPS qui a une forte dimension narrative, c'est d'ailleurs un des premier jeu, en tout cas de cette vague-là à cette époque, qui a été encensé pour ce qu'on appelle maintenant la narration environnementale, donc le fait de découvrir plein d'éléments du décor qui vont participer à raconter l'histoire du jeu, que ce soit sous forme juste d'éléments de décor ou de cadavres qui gisent dans une pièce ou de logs audio ou textuels à récupérer puis à lire. Donc il y a cette dimension-là et l'histoire va se dévoilé au fur et à mesure aussi de notre exploration, c'est-à-dire que deux joueurs n'auront pas forcément exactement le même degré de détail sur l'histoire selon si on a très bien exploré, si on a bien tout écouté, les logs audio, etc.
Oui, il y a vraiment des pans entiers du lore qui se révèlent à toi par l'exploration et
si tu prends le temps effectivement de fouiller, de bien tout essayer de comprendre, de faire le lien entre tel et tel personnage, quelle est leur relation, etc. Donc voilà un petit peu pour le pitch du jeu. Comment s'est passée ta première approche avec ce BioShock?
Écoute, la première approche elle est plutôt positive parce que j'apprécie beaucoup le caractère design, l'ambiance de l'univers dans lequel on est immédiatement immergé, parce qu'on a des décors qui sont très steampunk, alors les développeurs parlent aussi de dieselpunk quand ils parlent de BioShock, mais on est dans une espèce d'Atlantide un peu art déco, steampunk,
ouais, tout à fait,
qui fait vraiment son effet. Moi, visuellement, je trouve le jeu, que malgré son âge maintenant quand même relativement avancé, je trouve qu'il garde une patte visuelle assez marquante, et donc c'est visuellement, je trouve que le jeu est instantanément immersif. Donc pour cet aspect-là, bah, j'ai été très agréablement surpris, mais même pas surpris, parce que j'en attendais pas vraiment moins de la part de BioShock, qui, ne serait-ce que par sa jaquette, te montre tout de suite qu'il y a un univers visuel très marquant, et c'est le cas. Donc visuellement, même au niveau des sonorités aussi, je trouve le jeu très réussi. Tu sens vraiment une atmosphère un peu humide, pesante, un peu poisseuse, ouais. dans cette ville. Ensuite, la narration, parce que c'est quelque chose, on en a déjà un peu discuté ensemble, je le disais tout à l'heure, les FPS narratifs, c'est pas forcément les FPS que je préfère. Ça a tendance parfois à un peu m'assommer. À couper le rythme, et j'aime bien quand la narration passe aussi beaucoup par la jouabilité. Et là, alors, la narration est bien écrite. L'univers est foisonnant, il y a énormément de références politiques, des références philosophiques aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'y reparler.
Oui, mais parce probablement. Que,
Rapture, c'est une cité qui, à la base, a été fondée par ses créateurs sur un courant philosophique qui s'appelle l'objectivisme. Donc il y a énormément de références philosophiques aussi, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Et je trouve ça bien écrit. On parlait de Portal. D'ailleurs, c'était un autre FPS, Portal 2.
Oui, c'est vrai que. Oui, alors bon, est-ce qu'on shoot vraiment des choses, mais.
Bon,
oui. Parenthèse fermée.
Voilà. Mais disons que l'écriture est bien faite. J'aime bien les sonorités aussi des audiologues. Il faut y jouer en anglais, bien évidemment, j'imagine.
Enfin, conseil, ouais. Dans la version originale, la plupart du temps, ouais. c'est toujours.
Le casting audio est vraiment très bon. tu me sens peut-être venir.
Ah bah je sens, je l'attendais l'épisode dernier, il est pas venu, mais là je sens le gros mais planer mais, et arriver.
C'est-à-dire que je regrette peut-être de pas l'avoir fait plus tôt, parce que maintenant il y a d'autres jeux qui sont venus entre temps et qui ont été pour moi plus satisfaisants, plus complets et surtout plus agréables en main, parce que un des défauts de BioShock, ce que je reprocherais principalement à BioShock, c'est sa jouabilité. Je trouve que le feeling des armes n'est vraiment pas terrible. Moi, j'aime bien, enfin, c'est un des aspects fondamentaux pour moi qui fait la réussite ou non d'un FPS,
c'est l'impact ressenti.
Exactement, ouais. des armes, le recul.
Le feedback qu'on peut avoir, ouais.
C'est ça.
Alors, c'est vrai que là, on est à des années-lumière du jeu dont on va parler juste après.
Ouais.
Pour le coup.
Ouais. Et il y a un côté un peu flottant dans la jouabilité qui faisait que je ne m'éclatais pas vraiment en jouant à BioShock. Ça m'intéressait de découvrir cet univers sans non plus être absolument passionné, mais on y reviendra. Et voilà, au niveau du gameplay, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui me passait un peu entre les doigts, et j'avais l'impression de jouer presque une version bêta de Dishonored que je comparerais vraiment en termes d'univers, en termes de narration aussi, même si Dishonored est moins verbeux que BioShock.
Oui.
Et je trouvais que Dishonored avait un feeling beaucoup plus satisfaisant, clavier souris en main.
Ouais, parce que c'est un jeu qui t'encourage un peu plus à aller au contact, ouais. Peut-être aussi, et qu'il n'y a pas... Mais je vois ce que tu veux dire, le ressenti des armes, ouais, fait un petit peu... T'as l'impression de taper dans de la flotte.
Ouais, c'est
exact. J'ai du mal à mettre des mots exacts là-dessus, mais
que
souvent, on clique et il n'y a pas le... Soit la petite vibration d'écran ou le petit truc en plus
c'est
qui
ça.
Fait que t'as l'impression vraiment de tirer quelque chose et pas juste de cliquer sur une cible.
Et même les adversaires qui se déplacent, donc les plasmides, c'est ça, qui représentent la plupart de tes opposants, ils flottent un peu sur le sol, tu les entends pas vraiment venir derrière toi non plus. Il manque pour moi un côté ultra sensualiste,
physique,
organique dans les ressentis du jeu. Je trouve que le jeu est un peu plus satisfaisant quand tu utilises les pouvoirs que tu as grâce à la dent,
ouais.
Et grâce au carburant de la dent qui s'appelle l'Ève. Donc voilà, on reviendra sur la symbolique fine du jeu certainement plus tard. Mais je trouve que là, par exemple, quand tu utilises la télékinésie, quand tu projettes des flammes ou de l'électricité sur tes adversaires ou des nuées d'abeilles,
On a déjà un petit peu plus de...
Un peu de plus
feedback.
De ressenti, ouais. Ouais. Mais sur les armes, j'ai vraiment été frustré. Je trouve que la mitraillette est flottante. Le shotgun, ça va. Finalement, j'utilisais pratiquement plus que le shotgun parce que c'était presque la seule arme avec le lance-grenade où j'avais l'impression de tirer quelque chose. Mais sinon, c'est vraiment pour moi, en termes de jouabilité, un FPS que je ne retiendrai pas du tout comme étant marquant par rapport à ça. Maintenant, l'intérêt du jeu, il est certainement pas essentiellement dans la jouabilité.
Je pense que
ce serait un faux procès de s'arrêter là-dessus.
Ouais, je pense qu'ils ont misé sur d'autres pans du jeu, en effet.
Il fait vraiment partie, pour moi, c'est un jeu qui marche dans les pas de Half-Life.
Oui, complètement.
Dans l'utilisation de sa narration, dans le sérieux que ça porte à ce que ça essaye de raconter. Et c'est, comme je le disais avant, je trouve ça bien fait. Mais je trouve ça, je sais pas, peut-être parfois un peu trop démonstratif, peut-être parfois un peu trop verbeux, et j'aurais bien aimé que l'accent soit mis parfois beaucoup plus sur la jouabilité pour me faire ressentir ce monde. Pourtant, il y a des choses qui sont marquantes, par exemple les scaphandres, les Big Daddy,
qui sont sur la jaquette. Alors, il y a peut-être plusieurs jaquettes du jeu, mais généralement, ce qu'on
voit sur la jaquette,
c'est celle-là. Ouais.
Qui sont des gros adversaires qui escortent des petites filles.
Les Little Sisters.
Exactement, qui deviennent un élément central du jeu assez rapidement, parce qu'à chaque fois que tu tues un Big Daddy pour libérer quelque part une de ses petites sœurs, tu as un choix qui s'offre à toi, soit tu la tues,
tu
récoltes le parasite qu'elle a en elle, ce qui te donne beaucoup de Eve pour
après upgrader tes pouvoirs, etc.
C'est ça. Ou alors tu la sauves en la purgeant, en effleurant simplement son visage avec ta main, rien de plus simple.
Et tu récoltes un petit peu moins de monnaie si on le raisonnait comme ça, mais le jeu essaie de te faire comprendre que c'est un choix qui est peut-être un petit peu plus moral.
C'est ça, c'est vraiment le dilemme du jeu auquel te confronte le jeu, c'est quand tu tues un Big Daddy, tu as ces deux possibilités qui s'offrent à toi. Et soit tu récoltes un max d'Eve pour améliorer plus rapidement tes capacités, soit tu l'épargnes et t'en récoltes, mais moins. Et là aussi, je trouve que c'est un élément visuel qui est intéressant, parce qu'il y a vraiment des images terrifiantes quand tu décides de corrompre un peu cette petite sœur. Mais tout ça n'est pas hyper marquant pour moi. Je sais pas, c'est difficile à décrire les raisons qui font que je reste un peu à distance de ce jeu.
Ça a fait un peu pétard mouillé dans ton ressenti.
Oui, bah oui, et on est sous l'eau. Mais oui, c'est un peu ça. Et je trouve pourtant que le jeu est intéressant. Je parlais avant du courant de l'objectivisme, courant philosophique auquel le jeu fait énormément de références, ne serait-ce que dans les noms des personnages, parce que l'objectivisme est un courant de philosophie qui a été fondé par Ayn Rand, donc A-Y-N et nom de famille R-A-N-D. Et on retrouve à la base de cette cité de rapture un personnage qui s'appelle Andrew Ryan. Donc il y a un jeu ici avec les lettres qu'on modifie pour obtenir un nom et un prénom qui ressemblent étrangement au fondateur de l'objectivisme. Et l'objectivisme, c'est un courant philosophique assez intéressant, ultra égoïste, ultra capitaliste, et qui dit en gros, quelques idées fondamentales de l'objectivisme qui dit en gros que l'intention morale de l'existence est la poursuite du bonheur ou de l'égoïsme rationnel. Et ça, c'est des éléments qui vont être, je trouve, assez intelligemment distillé dans le scénario. Parce qu'il y a une évolution du scénario qui est surprenante dans BioShock.
Qu'on va peut-être pas dévoiler, parce que ça fait quand même partie de l'intérêt, c'est la découverte de l'univers et des tenants et aboutissants
et des twists, de
l'histoire de ton personnage.
C'est quand même une histoire à twist, et qui au départ du jeu t'interpelle un peu, parce que tu comprends pas exactement quels sont les intérêts, les buts de ton personnage.
Ton personnage débarque.
Oui, totalement.
Donc, c'est vrai qu'au début, on se pose un peu la question. On devrait se dire que le but principal devrait être peut-être de
se barrer.
De se barrer ou de trouver refuge quelque part. Et on se rend compte qu'il y a plus que ça.
Tu te retrouves très rapidement embarqué dans une machination qui te dépasse largement.
C'est ça, une sorte de rivalité politique entre deux personnages.
Deux entités. Ouais. Et je trouve que le jeu n'est pas assommant dans sa manière de faire référence à des courants de la pensée. Il n'y a pas un côté trop démonstratif, il n'y a pas de côté petit malin. Ça, j'aime vraiment bien, parce que ce genre de scénario très construit qui repose sur des éléments pivots dans son développement peuvent très rapidement tomber dans le scénario de petit malin. Là, ce n'est pas le cas. Je pense qu'une des grandes qualités du jeu, c'est que c'est un des rares jeux qui m'a questionné, c'est peut-être un grand mot, mais qui place le joueur par rapport à sa propre position de joueur dans un jeu vidéo. Et il le fait, donc il y a cette dimension méta que tu peux vraiment voir BioShock comme étant un jeu qui questionne la place du joueur, le rôle du joueur dans l'issue du personnage qu'il dirige. Et je trouve qu'il le fait de manière agréable, parce que ça peut très très vite être agaçant, ce genre de gimmick. Je suis pas un immense fan de Kojima, par exemple. Je trouve que Kojima est beaucoup trop démonstratif dans sa manière de jouer avec le méta dans ses jeux.
Et pourtant, tu as fait Death Stranding deux fois, hein, il faut le signaler.
C'est ça, mais j'aime beaucoup. C'est peut-être un de ses jeux les moins méta, Death Stranding. Mais... là, je trouve que BioShock le gère assez habilement. Alors voilà, c'est pas ma cam, c'est pas mon genre de FPS, not my FPS. Je préfère moi ce qui tabasse plus nerveux, pas forcément nerveusement, mais je préfère ce qui se focalise beaucoup plus sur le ressenti et qui passe plus par une histoire qui va passer par les sensations que ce BioShock que je trouve un peu flottant. Ouais, c'est un peu l'impression qui me reste. Un jeu dans lequel j'ai flotté pendant une dizaine d'heures et je redoutais presque les phases de confrontation avec des ennemis, ce qui est un paradoxal pour un FPS parce que c'était rarement gratifiant. Donc je suis très content de l'avoir fait, contrairement à d'autres jeux que tu m'avais imposés. Notamment Fable. Je suis très content de l'avoir fait.
Toujours
parce que...
pour en remplacer une. Hein. Ouais. Parce la que petite balle perdue, gratuite,
c'est,
comme ça.
C'est quand même, je pense, un moment important de l'histoire du jeu vidéo. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est un jeu qui montre son âge. Alors, je ne l'ai pas refait récemment. Quand j'y avais joué, c'était justement pas la version remastered. Et d'ailleurs, on peut peut-être dire un mot. C'est une version qui est passée relativement inaperçue. Il n'y a pas eu vraiment d'annonce. J'ai l'impression que c'était plus une adaptation avec des textures un petit peu plus hautes, résolution,
oui, oui, oui.
En tout cas sur PC.
C'est l'objet d'une mise à jour sur Steam, voilà, qui n'est même pas mentionné.
Oui, alors c'est quand même un jeu différent sur Steam, justement, le 1 et le 2 en tout cas. Et justement, moi j'ai été surpris parce que je possédais la trilogie BioShock sur Steam, et du jour au lendemain, BioShock 1 et 2 ont été remplacés.
Ouais,
je crois que tu ne peux plus acheter les versions d'origine.
Ça les remplace automatiquement dans ta bibliothèque.
Alors, j'ai pas lancé le jeu depuis, mais j'imagine que c'est principalement un petit listing
visuel.
Un lissage
et une adaptation à la jouabilité d'aujourd'hui, clavier-souris, qui n'était pas exactement
c'est vrai
celle de l'époque.
Je crois bien, alors sacrilège, mais je crois que j'y avais joué à la manette à l'époque. Ben... mais c'est peut-être justement parce que le jeu était peut-être... un peu plus calibré pour ça, je pense que oui,
parce que quand je l'avais lancé il y a environ 6-7 ans, je me souviens que j'avais eu cette impression d'un jeu fait pour la manette. Et en même temps, c'est peut-être un des FPS où c'est pas trop sacrilège d'y jouer à la manette.
Non,
parce que
t'as pas besoin d'une grande nervosité, le jeu est pas spécialement...
C'est pas comme si les sensations étaient grisantes. Donc,
c'est ça. Donc finalement, vu qu'il y a autant de phases de balade que de phases de shoot...
Ouais.
Le faire à la manette, ça gêne pas plus que ça.
Mais c'est un jeu, peut-être juste pour terminer là-dessus, ça m'étonne pas du tout qu'il y ait des projets d'adaptation cinématographique qui traînent depuis un bon moment. Et là, apparemment, c'est en bonne voie pour se faire chez Netflix. Le réalisateur est le réalisateur des Pirates des Caraïbes, Gore Verbinski, je crois, qui s'intéresse depuis longtemps et qui avait un script qui avait été refusé parce qu'il était beaucoup trop violent il y a quelques années pour adapter BioShock. Et apparemment, maintenant, donc il avait quitté le bateau. Et maintenant, avec la reprise du projet par Netflix, je crois que Verbinski revient sur BioShock et c'est lui qui, a priori, pourrait concrétiser son adaptation assez violente.
Est-ce que ça sortira avant ou après l'adaptation cinématographique de Sleeping Dogs dont on avait parlé?
Donc ça,
et
c'est
qui ne verra peut-être jamais le jour.
Ça, moi, j'ai oublié. Donnie Yen est déjà trop vieux. Mais bon.
Cela dit, BioShock est plus vieux, donc on pourrait se dire que...
Oui, mais comme Sleeping Dogs, c'était un projet qui était porté par Donnie Yen et qui avait besoin d'encore pouvoir mettre 2-3 tatanes et des coups de pied retournés. Alors après, il peut donner le rôle à quelqu'un d'autre, Donnie Yen, mais moi, je voulais Sleeping Dogs avec Donnie Yen, tu vois. Mais donc voilà, BioShock,
Ouais, souvenir. C'est marrant parce que je m'attendais à te trouver plus critique avec la partie histoire, justement, la partie philosophie. Je sais que voilà, tu es féru de ce genre de choses et que quand c'est pas bien fait, t'as tendance à le voir rapidement.
Mais c'est pas mal fait là. Hein.
Non,
est...
justement, mais je m'attendais à un petit peu plus de critique. Donc en un sens, je suis plutôt satisfait de ton ressenti. Je peux pas vraiment. Contredire ce que tu dis par rapport à la jouabilité. Moi, j'ai le souvenir de l'époque, et moi, j'en ai surtout un souvenir qui est centré autour de la narration. J'ai pas beaucoup de souvenirs.
Tu retiens ça de BioShock?
Peut-être un ou deux combats de une sorte de combat de boss, parce que t'as des ennemis quand même un petit peu centraux dans le jeu. Il y a un ou deux combats qui m'ont marqué, mais c'est surtout finalement les rencontres avec les Big Daddy. Et c'est vraiment plus un jeu à ambiance, à atmosphère. Il faut,
raison pour laquelle,
faut se laisser immerger là-dedans.
Raison pour laquelle, je pense que la première fois que ça m'arrive dans ma vie, j'ai passé le jeu en mode facile au bout d'un moment. Parce que les phases d'action, les phases de shoot sont quand même assez exigeantes. Tu dois quand même bien viser et tu te prends des sacrés mandales assez rapidement.
Ça demande de faire un bon usage aussi de... C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais tes pouvoirs vont avoir aussi de certaines interactions avec l'environnement.
Tout donc à fait. Tu peux électrifier l'eau.
Les classiques, t'enflammes une flaque d'huile, t'électrifies l'eau, etc. Tu projettes un ennemi avec la télékinésie dans quelconque élément du
décor. La télékinésie est extrêmement utile parce que quand t'as plus de munitions, bah, tu balances des objets sur les gens et ça les one-shot pour la plupart. Mais ce que je voulais dire, c'est donc comme le FPS est quand même, sans être satisfaisant, exigeant, et que j'ai assez rapidement compris que l'essentiel passait par la narration. Je pense qu'aux deux tiers, trois quarts du jeu, quand j'arrivais vers la fin et qu'il y avait quelques séquences qui étaient un peu retorses, je me suis dit, vas-y, je passe en mode facile, et je suis passé en mode facile. Il y a un élément du gameplay qui m'a un peu lassé à force de répétition, c'est les tourelles et le piratage des tourelles et autres caméras, où c'est à peu près toujours le même mini-jeu que tu dois faire pour pirater des tourelles qui sont extrêmement nombreuses. Là, tu vois aussi qu'en termes d'ennemis, en termes de variété des opposants, bah, il n'y a pas grand-chose. Il y a les Big Daddy, il y a les plasmides et puis il y a les tourelles. Quoi.
Ouais, c'est un peu,
peu de choses près.
Ouais. Alors maintenant, ma question peut-être pour conclure ce segment, c'est... Bon, manifestement, t'es plutôt déçu, en tout cas mitigé de ce que t'as pu voir, de ce que t'as pu ressentir, en tout cas, en jouant à BioShock. Est-ce que ça t'a donné envie, ou est-ce que tu envisages de faire les suites ? Sachant que...
BioShock 2 est moins bien.
Alors...
Il a la réputation d'être inférieur.
C'est le seul que j'ai pas fini, mais la raison pour ça, c'est que je l'avais commencé juste après avoir fini le 1, et comme il se passe de nouveau à Rapture, j'avais un petit peu saturé et j'étais pas allé jusqu'au bout. Alors, il est en tout cas pas réalisé par le même studio, on l'a dit tout à l'heure. Quand j'y ai joué, j'avais peut-être fait la moitié, je l'avais trouvé assez équivalent, moins d'emphase sur la narration de ce que je me souviens.
Okay.
Là, comme ça, j'ai plus forcément de souvenirs si le gameplay est un peu plus poignant.
Mm-hmm.
Mais la raison pour laquelle je te pose la question, c'est que pour moi, la vraie suite, c'est BioShock Infinite, ouais, avec ses DLC qui font le lien avec BioShock 1.
Alors moi, j'en ai entendu beaucoup de bien de BioShock Infinite. J'ai des amis qui adorent le premier BioShock et qui ont été transcendés par BioShock Infinite. Et je me souviens, j'ai un vieux souvenir à l'époque du 3615 Usul, de Usul qui chiait littéralement sur BioShock Infinite. Donc je me dis que ça doit être un excellent jeu.
C'est marrant parce que je m'attendais absolument pas à ce que tu fasses cette référence, mais je l'avais en tête aussi parce que j'allais dire que BioShock Infinite a eu à son époque des critiques, effectivement,
de
la part d'Usul, mais pas que, sur peut-être une certaine facilité scénaristique. Mm. Mais voilà.
Il avait littéralement chié sur le jeu.
Oui, je me souviens très bien.
Et voilà, ayant très peu d'affinité avec le personnage, je me dis qu'il y a de bonnes raisons pour en faire un bon jeu si Usul l'a détesté.
Eh bien écoutez, peut-être que dans quelques mois, dans le Sajou ou bien, vous entendrez Thomas dire qu'il a fini BioShock Infinite et que c'est un chef-d'œuvre.
La question c'est, est-ce que je dois passer par BioShock 2 entre-temps ? Parce que si c'est un peu un ersatz, une répétition du premier mais en moins bien, ça va être... Je pense pas que je vais me ruer dessus.
Alors de ce que j'ai compris, ça apporte quand même des ajouts au scénario, mais c'est pas nécessaire pour apprécier BioShock Infinite. Ouais. Donc,
il semblerait qu'il y ait un projet, puisqu'on était sous la mer dans BioShock 1 et 2, qu'on est dans le ciel dans BioShock
Infinite.
On est dans
le ciel, pas du tout à la même époque.
Il semblerait qu'il y ait un projet de BioShock 4 dans l'espace, non ?
Alors, maintenant, la licence appartient à l'éditeur, à 2K, donc ce sera de toute façon plus le studio de Ken Levine qui s'en chargerait. Il y a des rumeurs qui traînent depuis un bon petit moment. Maintenant, si on veut le vrai successeur spirituel, bah, il faudra peut-être justement se tourner vers le jeu de Ghost Story Games, donc le nouveau jeu de Ken Levine, Judas, justement, qui fait un petit peu BioShock dans l'espace.
Ah oui, c'est ça.
On a vu qu'un seul trailer, mais on dirait qu'ils repartent pour un jeu du même type.
Mais dans l'ambiance de jeu un peu art déco comme ça, steampunk aussi, Dishonored, j'adore Dishonored, m'avait amplement plus satisfait.
Il y a aussi toujours Arkane, je crois, Prey, qui avait été beaucoup comparé à BioShock avec son ambiance coincée dans un... Alors là, c'est dans une station spatiale.
Alors j'avais beaucoup aimé Prey, Voilà, voilà.
Très bien.
Donc, j'espère ne pas avoir choqué trop de monde.
Non, mais t'as
ce retour un peu mitigé.
Sur les 8 épisodes qu'on a fait, vu que c'est le 7e avec un épisode spécial, C'est un de ceux où t'as été le moins, le moins critique. Ouais. Non, peut-être pas le moins critique, mais t'as pas...
Fable et Portal 2 sont les seuls que j'ai, et surtout Fable,
c'est vrai,
sont les seuls que j'ai vraiment dégommé.
Ouais, mais fallait pas toucher à ceux-là, c'est ça ton erreur.
Non, mais Fable...
Bon,
sérieusement, Fable.
Transition, chers auditeurs, on va passer au deuxième jeu, donc le jeu auquel j'ai joué, Doom, et ce sera juste après cette petite coupure musicale qui, vous allez voir, va être toute douce.
Donc vous pouvez arrêter de headbanger maintenant, on va parler de Doom. Doom, pas le premier du nom, mais Doom 2016, qui est donc un FPS, la suite spirituelle, ou c'est même pas une suite directe, mais c'est une sorte de reboot de la franchise Doom, qui est donc un peu le grand-père du FPS.
Ah ouais, tu parlais de Doom-like tout à l'heure, on a longtemps appelé jusqu'au milieu des années 2000, je crois, après, on appelait tous les FPS les Doom-like.
Tout à fait. Alors, Wolfenstein précédait Doom, mais Doom a été peut-être le moment, l'acte de naissance officiel de ce genre de jeu vidéo, au point d'y donner son nom. Donc, Doom 2016, c'est un jeu qui a été développé par ID Software et édité par Bethesda Softworks, sorti en 2016. Donc ça, jusque-là, tout est compréhensible. Le jeu est sorti sur PC, sur PlayStation 4 et sur Xbox One au départ. Le jeu a été porté sur Nintendo Switch en 2017, une année plus tard. Alors bon, il y a des gens qui jouent à Doom sur Switch, pourquoi pas.
Mais j'ignorais l'existence de la version Switch.
Oui, oui, oui.
Et sitôt après la sortie initiale, donc au tout début de la vie de la Switch, je me demande à quoi ça ressemble.
Oh, putain,
et à quel point c'est jouable.
Ça doit être violent. Donc c'est le quatrième opus de la série Doom, puisqu'on a eu Doom, Doom 2, Doom 3 qui était plus horrifique, qui marquait vraiment un tournant dans la saga.
Il y avait Doom 64 aussi, mais bon, il pose des problèmes niveau numérotation officielle.
Tout à fait, exactement. Ouais. Et à la base, ce Doom 2016 était prévu pour une sortie bien plus tôt, en 2008, sous le nom de Doom 4. Mais le développement a été assez bordélique. Tout a été recommencé en 2011. Et finalement, c'est en 2014 que la décision a été prise par ID Software de renommer ce jeu Doom, de ne plus le numéroter et de prendre une orientation un peu plus brutale, voire beaucoup plus brutale, que ce qui avait été amorcé avec Doom 3, qui avait surpris, déçu pas mal de monde, même si moi, c'est un épisode que j'aime bien parce que c'est un FPS presque au croisement du survival horror, enfin, qui est vraiment terrifiant et que je trouvais très très réussi. Mais donc là, le jeu arrive en 2016 avec des éléments extrêmement marquants, on aura l'occasion d'en reparler, notamment une musique devenue absolument culte signée Mike Gordon. Et comme dans pratiquement tous les Doom, eh bien, le joueur, qu'est-ce qu'il fait ? Il incarne le fameux Doom Guy, donc un militaire spatial anonyme, et il va combattre rien d'autre que des forces démoniaques qui sortent de l'enfer et qui sont relâchées ici par l'Union Aerospace Corporation sur la planète Mars, la planète rouge, dans une sorte de futur dystopique. Alors c'est pas aussi scénarisé que le jeu dont
on
vient de parler.
Il y a quand même un petit peu d'exposition au début, on nous explique qu'il y a le portail vers l'enfer permet d'utiliser une nouvelle source d'énergie. Et
tout à fait.
Voilà, y a des problèmes qui se créent à cause de l'apparition de tous ces démons.
Et en plus de ça, il y a une forme de jeu avec justement les FPS narratifs dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il y a une voix qui tente de t'expliquer un contexte, un lore, et le personnage l'envoie poliment chier en lui disant « ferme ta gueule, je suis pas venu ici pour ça ».
Et en pétant le terminal de communication avec lequel personnage nous parle.
Tu te dis au début « non, ils vont pas narrer mon Doom ». Ils vont pas imposer une narration lourdingue comme ça, lâchée en voix off sur mon Doom. Donc tu redoutes ça au début, parce qu'il faut quand même préciser une chose que je n'ai pas précisé encore, c'est que ce Doom a été l'objet de beaucoup, beaucoup d'interrogations, de doutes, de moqueries même, quand il a été annoncé. En 2016, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils veulent refaire avec Doom qui n'a pas encore été fait ? Donc, il était attendu avec beaucoup de méfiance de la part de la communauté de joueurs, même de la part des fans. Personne n'avait vu venir ce Doom comme étant un chef-d'œuvre du FPS. Et donc, parce que bon, il y a le petit cousin de Doom, Duke Nukem, a fait un comeback qui est ce qu'il a été avec Duke Nukem Forever, qui était une catastrophe historique. Donc là, on dit.
Il y a Wolfenstein qui a fait un retour. Mais alors, c'était plus tard. Non, c'était plus tôt, 2013, je pense.
Et plus tard. J'ai pas joué à tous les derniers Wolfenstein, donc j'arriverai pas à situer chronologiquement exactement. Mais
je crois que New Order, c'est 2013.
Ouais, c'est possible. C'est bien possible. Mais donc là, tu débarques dans ce nouveau Doom, plein d'appréhensions, plein de doutes, tu marches sur des œufs, cette narration qui débarque, tu dis non, pas ça, pas dans Doom.
Pas ça dans mon Doom.
C'est ça, et là, le Doom Guy massacre le terminal, il envoie chier la voix féminine qui commençait à te raconter des conneries, et back to the roots, back to the pure motherfucking FPS, ça va chier, et uniquement chier. Et avec quel maestra, c'est un jeu pour moi qui est absolument génial. Pourquoi, Thomas, n'avais-tu pas fait Doom ?
Alors, je vais être complètement à contre-courant avec ce que tu as dit sur BioShock. Et je pense que les gens vont peut-être se dire que je fais un petit peu mon pénible, parce que le mois dernier, je disais « Ouais, l'infiltration, c'est pas tout à fait mon genre de jeu. » Bah, le FPS, c'est pas tout à fait mon genre de jeu non plus. Et justement, là où c'est rigolo que tu aies dit ça pour BioShock, parce que moi, c'est presque tout l'inverse. Moi, il me faut un truc en plus dans mon FPS pour que j'apprécie. Il faut qu'il y ait soit une sorte de gimmick de gameplay ou une emphase sur la narration ou
un univers qui te parle,
sur l'immersion, voilà, quelque chose comme ça. Donc,
mais bon, Mars envahi par les démons, ça te parle pas?
Oui, alors c'est sur le papier comme ça, c'est pas trop mal. Je sais pas si ça me vend du rêve non plus. Non, mais la raison pour laquelle j'ai pas forcément joué à Doom, alors déjà j'avais joué à aucun Doom de ma vie. J'ai acheté il y a quelques temps les Doom 1 et 2 sur Switch que j'ai pas encore lancé, mais je m'étais dit qu'il fallait que je joue à la, voilà, à l'introduction de tout un genre, mais je ne l'ai pas encore fait. Et ce qui m'a peut-être un peu refroidi aussi, justement, je mentionnais Wolfenstein, c'est que j'ai joué, alors pas en entier, parce que j'ai décroché bien plus tôt que la fin, au reboot de Wolfenstein, donc New Order, sorti, comme je disais, en 2013. Et alors, mais je trouve ça mais chiant comme pas possible. J'ai du mal vraiment à trouver l'intérêt du FPS sans rien à côté, avec des missions, avec des armes, tout ce qu'il y a de plus basique, et des ennemis normaux. Ça m'intéresse vraiment pas. J'ai joué à assez peu de FPS dans ma vie, donc bon, il y a les BioShock, les Portal si on les compte, GoldenEye 64 quand j'étais petit, mais à y rejouer maintenant, j'arrive plus, mais c'est surtout une question de contrôle. Mais j'ai fait assez peu de FPS dans ma vie, c'est pour ça que...
FPS multi quand même un peu.
Oui, un petit peu. Oui, parce que là, ouais, mais là, c'est t'as pas le même, même regard.
Tu n'y vas pas pour la même chose.
Exactement. Ouais, j'ai jamais fait une campagne de Call of Duty, par exemple. Ouais, pour moi, ça a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, j'espère que j'ai offensé suffisamment de gens avec toute cette haine envers les FPS. Tout ça pour dire que je suis quand même allé vers ce Doom avec suffisamment de curiosité, parce que j'en avais quand même suffisamment entendu parler, vu que je m'intéresse quand même pas mal à toutes les sorties jeux vidéo, même celles auxquelles je compte pas jouer. Donc je connaissais une partie des gimmicks, une partie des mécaniques de Doom, et j'y suis allé en toute bonne foi.
Okay. Parce que tu parles des mécaniques de Doom, c'est un jeu qui a passablement renouvelé les mécaniques essentielles de ce qu'était la franchise Doom jusque-là, c'est-à-dire qu'on a maintenant une verticalité qu'on n'avait pas dans les épisodes précédents, avec la possibilité de faire un double saut.
Oui.
On a aussi un système qu'on qualifie de push forward combat, c'est-à-dire que c'est un système de combat qui t'encourage, qui t'incite même à toujours aller au contact des adversaires.
Et à
prendre des risques, parce que c'est en tuant des adversaires d'une certaine manière avec la tronçonneuse que tu vas récolter des munitions. Donc il y a un système d'incitation et de récompense au risque que tu prends, un peu à la Bloodborne quelque part.
Oui,
tu pouvais
complètement
récupérer
avec la mécanique de rallye. Ouais. Oui, tout à fait.
Et donc ça donne ne serait-ce que parce que les armes le veulent, mais aussi parce que les mécaniques du jeu le veulent, ça donne un jeu qui, à l'arrivée, est extrêmement nerveux.
Ouais, c'est vraiment le mot central, je pense qu'on va le mentionner plusieurs fois. Non seulement, je me permets d'ajouter, tu as parlé du fait qu'on peut aller au contact avec la tronçonneuse, alors qu'on n'a pas pendant les premières missions. Mm-hmm. Hein, je crois que ça se débloque vers la troisième, quatrième mission. Mais il y a aussi ce fameux système, enfin je dis fameux, peut-être que les gens ne le connaissent pas, mais Doom 2016 a un système qui s'appelle les Glory Kills. Quand tu vas tirer sur les ennemis avec toute ta panoplie d'armes qui se développe au fil des missions, donc on commence avec très peu d'options. Alors on a le petit pistolet à la con qui a des munitions, je crois, illimitées, un petit peu comme dans Halo, et après tu débloques vite le fusil à pompe, puis un fusil mitrailleur, puis plein d'autres choses. Donc tu vas tirer sur les démons, on reparlera de la nervosité, le fait que tout va très vite, et un petit peu avant de mourir, à une ou deux balles de la mort, les ennemis se mettent à clignoter.
Ils s'affaissent et ils clignotent.
Ils s'affaissent, voilà, ils ont un petit moment de stun, ils clignotent en bleu et en orange. Enfin, bleu si t'es loin, je crois, et orange plus tu te rapproches, je crois qu'il y a une notion de distance. Et à ce moment-là, tu as une fenêtre pour venir appuyer sur une touche au contact de l'ennemi, l'assassiner avec des moyens toujours plus farfelus les uns que les autres. Donc,
ultra gore,
donc tu prends la tête d'une main, le torse de l'autre, et puis tu tires comme un bourrin.
Il y a presque autant d'inventivité dans le gore que dans les finish him de Mortal Kombat.
Exactement. Et si c'était que ça, on pourrait dire que c'est juste une manière d'économiser des munitions, mais surtout, c'est que en faisant ça, les ennemis lâchent des petits packs de santé. Et étant donné que ça peut paraître bizarre en 2016 hein, pour les joueurs de FS, mais il y a une barre de vie. Hein. Ah, on ne respire pas tranquillement dans un coin pour s'enlever les taches de sang sur le visage. On a une barre de vie. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est plus réaliste, hein, finalement. Mais on a une barre de vie. On a une jauge d'armure aussi avec certains power-up qu'on va pouvoir récupérer. Et cette barre, elle a tendance à descendre vite parce que les ennemis sont quand même très agressifs. Ils bougent très vite.
Ils sont très nombreux.
Ils sont souvent très nombreux. Hein. Le jeu va fonctionner par vague et
par arène.
Ouais, et c'est vraiment des vagues assez conséquente et voilà, où chaque balle compte, chaque point de vie compte, et donc forcément le jeu va te pousser à aller au contact, que ce soit pour récupérer des munitions, parce que ça, je vais déjà le dire mais j'en reparlerai, je trouve que c'est un jeu qui a un équilibre
parfait,
hyper bien. Ouais. C'est tout est calé, j'ai jamais eu un moment, j'ai fait quelques game over mais très rarement, c'était toujours très bien fait pour que une vague d'ennemis se termine alors que j'étais vraiment en rade de munitions ou de vie ou les deux. Tous les petits power-up, toutes les régénérations de santé, tous les packs de munitions
sont parfaitement mesurés,
là où il faut, quand il faut. C'est vraiment un jeu avec un rythme maîtrisé de A à Z.
On n'est pas dans Spider-Man 2.
Ah non, alors justement, c'est je m'y étais un petit peu préparé parce que j'ai parlé de Spider-Man 2 la dernière fois. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ça ne durait jamais plus que ce qu'il fallait.
Parce qu'ici, tout est au service du gameplay.
Oui, et là, effectivement, on est complètement à l'opposé de ce que peut proposer BioShock en termes de sensations. C'est que les armes sont très satisfaisantes à utiliser. Certaines, bon, évidemment, le pistolet qu'on a au début...
Que t'abandonnes assez rapidement.
Pas tant que ça, mais finalement, tu l'utilises jamais. Mais la plupart des armes sont vraiment un plaisir à utiliser et elles ont toutes une utilité quelconque. Évidemment, on commence avec le shotgun parce que c'est aussi une manière pour le jeu de te dire va au contact, parce que forcément, plus tu es prêt avec le shotgun, plus tu fais de dégâts et ça te montre qu'après, tu es déjà au contact pour faire les
glory kills.
Donc, c'est... Mais même après le shotgun, que ce soit les mitraillettes, j'ai plus en tête le nom de l'espèce de fusil laser que tu charges, le
canon
Ghost, le Ghost Cannon, je crois,
quelque chose comme ça,
que j'ai longtemps ignoré. Alors bon, on l'obtient assez tard dans le jeu, enfin en tout cas vers la deuxième moitié. Je l'ai ignoré au début parce que je trouvais qu'il consommait beaucoup de munitions pour ce que c'était. Et quand j'ai débloqué la faculté d'avoir la lunette et de faire des tirs chargés, j'utilisais pratiquement plus que ça, en tout cas pour les gros ennemis. Voilà, donc je suis en train de montrer une certaine...
De l'enthousiasme.
D'enthousiasme.
tu t'emballes.
Mais en fait, tu sais pourquoi je m'emballe? C'est parce que en reparlant, je me souviens de mes sessions de jeu et...
Et tu revis ça.
Constamment excité en jouant à ce jeu parce que c'est un jeu qui...
Qui te laisse pas respirer une seule seconde.
Si, en réalité, oui, parce que les vagues ont une fin et puis après, tu as quelques petits moments, pas vraiment d'exploration, mais quelques moments où justement reprendre un peu ton souffle, toi en tant que joueur, ton personnage pour refaire le plein.
Mais c'est simplement une parenthèse entre deux arènes.
C'est ça. Mais c'est quand même un jeu au rythme effréné. C'en est presque épuisant parfois.
Ah, ça l'est. Moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on n'avait pas parlé. Je crois qu'on l'a déjà dit, mais on ne parle pas vraiment des jeux qu'on s'impose avant d'enregistrer pour garder l'effet de surprise et l'effet de stupéfaction.
L'authenticité de nos réactions.
C'est ça, on découvre ce que l'autre en a pensé sur le moment, en même temps que vous. Mais moi, je te disais quand même juste avant, quand on buvait notre café avant d'enregistrer cet épisode, je te disais que moi, c'est un jeu qui me plonge dans une transe, mais qui dans une forme d'hypnose. Ou à un moment donné, il faut que je coupe. Parce que quand j'y joue le son à coin, ça me défonce les oreilles. Et mon corps ne fait plus qu'un, vraiment.
Avec le clavier et la souris.
C'est ça. Et au bout d'un moment, il y a une fatigue mentale.
Musculaire.
Musculaire, ouais, nerveuse, et mentale. Ouais, nerveuse et visuelle aussi, parce que tes yeux sont tout le temps en train de scanner l'écran d'une manière frénétique. Et donc, au bout d'un moment, moi, j'en fais des sessions de 2 heures maximum, je pense. Au bout d'un moment, je suis fatigué.
Alors moi, je suis même allé jusqu'au point... Je crois que ma première session, j'ai fait 2 missions. Il y a, je crois, 13 missions dans le jeu. Mm-hmm. J'ai fait les 2 premières d'une traite parce que voilà, c'était ma session
et après,
production.
Tu faisais plus qu'une mission par mission.
Et après, je suis allé regarder sur un guide combien il y avait de missions. Et
Tu t'es dit, je vais pas tenir.
Pour caler un petit peu. Non, mais juste pour caler par rapport au temps qu'on s'était fixé pour enregistrer cet épisode. Et j'ai fait en sorte de caler mes sessions, mais de faire qu'une seule mission par soir. Je crois que j'ai peut-être fait les 2 dernières d'un coup parce que voilà, j'étais motivé par l'envie d'en voir le bout aussi. Mais ouais, c'est vraiment un jeu qui est assez éprouvant. C'est à la fois une critique et un point positif. Il faut dire aussi que les missions, par contre, comme je disais, tout a une durée raisonnable. Mm-hmm. Donc les missions duraient 3 quarts d'heure, ouais, en moyenne, entre une demi-heure et 3 quarts d'heure, selon si on fait un petit reset ou quelque chose comme ça. Mais par contre, je suis bien obligé de reconnaître que c'est à chaque fois 3 quarts d'heure de défouloir.
Ouais.
C'est que là, comme tu disais, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de fioriture, on est là pour se bastonner, on est là pour foutre des bastos dans des têtes de démons, et ça marche.
Ça marche, et ça donne envie d'y revenir et d'augmenter le niveau de difficulté une fois que tu as terminé le jeu. Parce qu'il y a aussi toute cette culture autour de Doom, des joueurs qui l'ont terminé une première fois, mais c'est pas du tout comme un Diablo ou autre, où après tu arrives vraiment dans la méta du jeu qui se développe avec les parangons, etc. Non, là, le but premier de Doom, c'est de le finir en Nightmare, c'est de le finir dans le mode de difficulté le plus ardu, parce que l'expérience ne fait que de gagner en intensité au fil des niveaux de difficulté que tu vas franchir.
Ça t'oblige à maîtriser ton arsenal, à maîtriser ta panoplie de mouvements.
Tes déplacements, quand même.
Les déplacements.
C'est,
voilà,
c'est presque du jeu de rythme.
Ouais.
Il y a quelque chose de l'ordre du jeu de rythme dans Doom, parce que tu dois coordonner tous les éléments du jeu tout le temps, en même temps, à la fois dans les séquences d'affrontement avec les vagues d'ennemis. Donc tu dois gérer les déplacements, tu dois gérer la distance avec les adversaires, tu dois gérer les armes, les munitions, les glory kills. Il y a vraiment quelque chose de rythmique, c'est le rythme de la violence qui t'explose à la gueule et qui, pour moi, est une pure expérience de jeu vidéo.
Ouais, alors, aucun doute là-dessus, effectivement, sur les sensations que le jeu propose. On est sur quelque chose d'absolument jouissif et de, ouais, comme tu dis, d'hypnotique, parce mm-hmm. qu'on est vraiment dans le flow, dans le rythme.
C'est de la trans berserk. Tu rentres dans un mode berserker, ouais, et voilà, tu ne penses plus qu'à tuer.
Et quand tu entends la musique qui s'arrête et que tu sais que tu es arrivé à une fin de vague, là, c'est le retour à la réalité, c'est
la calmie.
De reprendre son souffle, ouais, et puis de voir ce qui nous attend ensuite.
Parce qu'il faut aussi parler de ça, de la gestion de la musique au fil des arènes et de la violence continue, de la durée sur laquelle peuvent s'étendre les arènes.
Ouais. C'est vrai que donc, quand on se déplace dans les... Alors, que ce soit dans des environnements intérieurs ou extérieurs, dans ce qu'on va appeler les couloirs entre les mm-hmm. arènes, le jeu est très silencieux, il n'y a pas vraiment de musique de fond dans ces moments-là, ou alors quelque chose d'assez monotone. Et par contre, quand on arrive dans une zone où il y a des ennemis, généralement on les voit venir, hein, ça fait on a un goulot d'étranglement, puis une zone assez ouverte, bah là la musique commence à taper. Alors, je vais tout de suite faire un disclaimer, C'est pas mon genre de musique, c'est pas la BO que je vais écouter...
Dans ta voiture
Voilà, dans ma voiture, j'ai pas de voiture, mais c'est pas la BO que je vais écouter en extérieur. Par contre, sur le moment, j'y faisais pas gaffe. Mais par contre, je sais que c'était important qu'elle soit là.
Ah, c'est un élément du gameplay.
Si ça avait pas été là, bon, de toute façon, il y a aucun jeu qui est silencieux à ce point, mais si ça avait pas été autant bourrin...
Et autant en symbiose avec le reste.
Forcément, ça aurait desservi le jeu s'il n'y avait pas eu cette OST derrière. Donc, je pense que c'est Mick ou Mike Gordon, je ne sais plus, qui a fait un boulot, je pense, titanesque et qui colle super bien au jeu. Voilà. Maintenant, moi, musicalement, c'est pas tout à fait ma cam. Donc, ça allait bien en musique de fond pendant que tu défonces des têtes de démons à coups de shotgun.
Ouais.
Voilà. Mais voilà. Moi, c'est pas l'OST que je vais m'écouter comme celle de The Messenger,
elle est,
par exemple.
Elle est éprouvante aussi. Hein.
Elle est vraiment en adéquation avec tout ce qu'on fait dans le jeu.
Et je parlais un peu de ma déception du bestiaire de BioShock. Alors là, je trouve que dans Doom, le jeu offre une très belle variété. Alors, on retrouve les ennemis canoniques de la saga Doom, mais qu'est-ce que c'est efficace ? Chaque ennemi nécessite une approche différente, une arme presque différente, parce que certaines armes sont très efficaces contre un type d'ennemi et pas contre d'autres. Donc là aussi, c'est un élément qui est très très bien maîtrisé.
Oui, et on parlait de... On parle beaucoup de rythme depuis le début de ce segment, et tout est bien amené dans le jeu, dans le sens où, au début, tu vas avoir accès à assez peu d'armes, tu vas récupérer une ou deux armes supplémentaires pendant peut-être tes 4-5 premières missions, je ne sais plus exactement, mais j'ai fini le jeu avec 9 armes, peut-être. Et donc, ça permet de te renouveler suffisamment, parce qu'au début, le shotgun, c'est bien, mais tu fais vite le tour, tu dis que t'aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu plus longue portée, d'un petit peu plus précis. On te file le fusil d'assaut, ensuite il y a l'espèce de fusil plasma qui envoie comme des petites boulettes que j'ai trouvé super pour les ennemis volants, par exemple, ça tire très, très vite en rafale et c'est bien contre des cibles qui bougent pas trop vite, et la plupart des ennemis bougent très vite. Donc, tout est fait pour que tu n'es pas une seconde pour te reposer, en fait. Tu commences à te dire, c'est bien César, mais j'aimerais bien quelque chose en plus, le jeu va te le donner. Et c'est pareil avec les ennemis. Au début, t'as les petits démons, les petits diablotins tout basiques. T'as ceux qui sont un petit peu plus gros avec un shotgun et des armes un petit peu plus puissantes. Et après, t'as les grosses têtes volantes. Après, tu as les... J'ai jamais joué aux anciens Doom, mais j'ai l'impression d'avoir vu un ennemi qui est assez... iconique, c'est ceux avec comme une espèce de lance-roquette sac à dos. J'ai du mal un petit peu à les décrire, mais qui sont assez plus humanoïdes que le reste, disons. Et puis après, il y a les grosses bestioles qui crachent de l'acide.
Donc il y a une notion du gigantisme aussi, que ce soit dans les adversaires finaux ou dans certains décors. Je trouve que le jeu est assez beau dans les décors qu'il déploie. Il y a quelques moments de contemplation quand même Mars.
Tout cet enthousiasme, je vais peut-être le tempérer un petit peu.
Non, si, on va s'arrêter là. Non, non. On va passer au Sajou.
On va continuer à parler un petit peu de Doom. Non, parce qu'il y a... Alors, globalement, tu l'as compris, vous l'avez compris, j'ai passé un bon moment et j'ai un petit peu la même conclusion que le mois dernier sur Mark of the Ninja. Je ne m'attendais pas forcément à passer
un aussi bon moment.
Cela dit, il y a quand même 2-3 petites choses. Moi, je vais lister 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu déçu. Il y en a une principalement, tu parlais de variété. Il y a de la variété dans les armes, il y a de la variété dans les ennemis. Par contre, les environnements... Alors, le jeu n'est pas moche, mais par contre, tout se ressemble. Et ça, j'ai trouvé un peu dommage parce que... Donc, le jeu commence, tu l'as dit, sur la planète Mars. On est dans une sorte de complexe industriel scientifique. Et il y a des démons qui sortent de portails. Et forcément, dans ses premières missions, alors il y a des parties en intérieur et des parties en extérieur, mais forcément, c'est rouge. Hein. Globalement, c'est un jeu qui est teinté rouge.
Mars la rouge.
Et bien vite, à peu près au milieu du jeu, je dirais, il y a certaines missions que, c'est pas vraiment un spoiler de le dire, qui vont se passer en enfer. Du coup, je me dis, changement d'environnement, changement de décor.
L'enfer, c'est rouge.
L'enfer, c'est rouge. C'est un peu dommage parce que, il y a du coup forcément bah, y a plus les éléments de décor futuristes, industriels, scientifiques. Il y a à la place des sortes de portes avec des symboles de crâne et des choses comme ça. Mais au-delà de ça, bah, c'est rouge, c'est de la terre battue, il y a des nuages rouges. Bon, j'ai été un petit peu déçu de ça. Je m'attendais à un petit peu plus de folie, vu que c'est un jeu qui est complètement fou à bien des égards. Je m'attendais à un petit peu plus de variété dans les environnements. Alors, clairement, c'est comme pour le scénario. On sent qu'ils ont de toute façon pas mis l'accent là-dessus. Et en soi, c'est pas très grave, parce que quand t'es dans la frénésie de l'action, tu fais plus trop attention aux environnements dans lesquels
c'est peut-être aussi le but, hein.
Oui, peut-être.
Que tout ça soit organique et que le jeu soit une extension, enfin que tu le connaisses, que tu le maîtrises sur le bout des doigts assez rapidement, qu'il n'y ait plus d'éléments trop surprenants qui te perturbent dans ta gestion du rythme.
Que tu ne sois pas perturbé par des luminosités qui changent, des décors qui changent. J'ai quand même trouvé ça dommage. J'aurais bien aimé avoir quelque chose à me mettre sous l'œil, du coup, un petit peu plus varié que des éternelles teintes de rouge. Mais bon, s'il n'y a que ça, c'est pas bien grave.
C'est pas bien grave.
Alors, oui. Non, le scénario, je vais même pas le lister comme un point négatif, parce que de toute façon, c'est finalement heureusement qu'il y a rien à côté.
C'est totalement assumé, c'est à l'échelle.
Mais il y a quand même un certain nombre de dialogues que tu entends la plupart du temps par transmission aussi. Tu croises un ou deux personnages qui vont te parler, et il y a quand même eu une volonté, je trouve, de faire une forme d'histoire qui n'est pas bien creusée, hein, qui n'est pas bien philosophique, mais j'ai trouvé qu'on aurait même presque pu en faire encore un peu moins. Parce que, c'est pas arrivé à beaucoup de reprises dans le jeu, mais il y a eu un moment au milieu d'une mission où tu te retrouves dans une salle d'ordinateur où tu as un androïde qui te parle, et ça durait suffisamment longtemps pour que je me dise, redonnez-moi du démon, quoi. Je suis pas venu là pour ça.
Il pourrait aller encore un peu plus loin dans les purs.
C'est ça. Et autre petit bémol, mais encore une fois, c'est des petits bouts de choses qui m'ont gêné et qui n'arrivent pas fréquemment, mais le fait que ce soit un jeu à la première personne et, comme tu l'as dit, avec une certaine verticalité, pendant les affrontements, c'est très bien parce que tu dois bien regarder, est-ce que tu vas te positionner sur cette plateforme en hauteur, est-ce que tu as une voie pour t'enfuir, pour te sortir d'un
mais les phases de plateforme.
Mais par contre, je ne sais pas trop pourquoi ils ont insisté à mettre quelques phases de plateforme par-ci, par-là, qui sont plus frustrantes que ce qu'elles devraient être, parce qu'elles sont... C'est pas de la grande plateforme, mais elles sont suffisamment justes pour qu'il faut quand même faire attention à ce que tu fais. J'ai vraiment pas trouvé ça transcendant, et on aurait vraiment pu s'en dispenser. Ouais. Et le tout petit dernier...
Ah putain, t'as quand même pas mal de réserves.
Oui, mais c'est des petits... Ça m'a pas empêché de profiter du jeu et de profiter de ce que le jeu avait à offrir. C'est les boss qui n'étaient pas tous très très intéressants, justement parce que la plupart du temps c'est un boss. Il y a une fois où il y a deux ennemis, tu bats un ennemi puis après t'en as deux qui arrivent, mais justement le cœur du gameplay pour moi c'était le fait que les ennemis étaient constamment en surnombre
autour de toi,
et moi ça m'est arrivé plusieurs fois, les quelques fois où j'ai fait un game over, c'est parce que j'étais un petit peu trop gourmand et j'ai sauté dans l'arène et je me suis rendu compte que vraiment le nombre d'ennemis à ce moment-là était trop important et je devais me replier. Et ça, contre les boss, tu l'as pas, parce que généralement, alors c'est des boss qui sont tout à fait impressionnants dans leur design et par leur taille, mais ce qui fait que bien souvent tu te contentes de tourner autour, de viser ce que tu penses être ses points faibles, d'esquiver à peu près.
Et rien ne te perturbe.
Voilà. Mmh. Et finalement, c'est, alors encore une fois, ça dure pas bien long, et heureusement, justement, ça sait se montrer suffisamment bref dans ces moments-là, mais c'est du coup pas forcément les moments les plus inoubliables du jeu.
C'est vrai. Et donc, je vais te poser à peu près une question similaire à celle que tu m'as posée avant pour BioShock. Est-ce que ça t'a donné envie d'enchaîner, alors peut-être pas tout de suite, mais de quand même faire Doom Eternal, qui est sorti quelques années après ?
Oui, mais pas tout de suite. Effectivement, je vais prendre une petite pause. Je vais jouer à des jeux calmes. J'espère que le jeu du podcast prochain sera un jeu calme.
Il semblerait.
Donc, oui, mais oui. En plus,
c'est d'affaire.
Attention, révélation, je crois que je l'ai sur ma bibliothèque Steam. Donc, finalement, je m'engage à pas grand chose.
Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas sur ces bibliothèques Steam?
Donc, oui, je pense. J'en ai entendu plutôt du bien avec parfois certaines réserves.
Alors le jeu a une approche un petit peu différente, donc ouais. c'est plutôt à son avantage. Il tente d'autres choses, le rythme n'est pas exactement le même. C'est un jeu qui est encore plus difficile.
Okay. Et alors j'ai joué en normal.
En normal, ouais. J'ai pas encore osé les DLC de Doom Eternal, mais il paraît qu'ils représentent vraiment un challenge assez ardu, mais qui sont très très bons. Donc j'ai terminé Doom Eternal en normal aussi, je crois. Mais je serais curieux d'en parler à l'occasion une fois avec toi, parce que le jeu est dans la suite logique de ce Doom 2016, mais quand même avec un flow un peu différent. C'est presque un autre genre de FPS, mais ça se joue à des petites subtilités qui ne sautent pas forcément aux yeux.
Ok. Et est-ce qu'entre-temps, ils ont appris qu'il y avait une autre couleur que le rouge ?
Un peu, oui.
Ok.
Un peu.
Ah !
Oui. Tu verras.
Tu
verras.
Tu piques ma curiosité.
Mais je suis content de t'entendre aussi enthousiaste.
Ouais, non, c'est... Voilà, le résumé de tout ça, c'est que j'ai quand même passé un bon moment. C'était éprouvant parfois.
Le fameux bon moment de Thomas.
Ouais, bah oui, mais écoute, moi
j'ai passé un bon
moment. J'aime bien passer des bons moments. Pour la plupart des jeux que tu m'as soumis, j'ai passé un bon moment, et des fois c'était Heavy Rain, mais autrement, j'ai passé un bon moment sur Doom. Mais comme tu l'as dit, on voit dans les menus que c'est un jeu qui gagne à être refait dans les difficultés supplémentaires. Et c'est vrai que là, bon, en plus avec les impératifs de temps qu'on s'impose pour le podcast, c'est pas quelque chose que j'ai fait et que je vais peut-être pas avoir la patience de faire. Je sais pas si j'aime suffisamment les FPS, même Doom, pour me dire que je vais le refaire en dur, en nightmare, en tout ce que tu veux. Mais par contre, Doom Eternal, pourquoi pas.
Ouais. Donc voilà, les deux jeux dont on a parlé aujourd'hui offrent un bon panorama de ce qu'il est possible de faire de manière complètement différente dans un même genre de jeu vidéo, le FPS. D'un côté très narratif et pas très grisant,
pas très
dans sa maniabilité.
Avec peu d'impact,
c'est
malheureusement.
Ça. Ouais. Et d'un autre côté, un jeu qui n'est que de l'impact, avec Doom 2016 et BioShock de l'autre. Je crois qu'on a fait le tour de ces deux jeux.
Il me semble bien. On va pouvoir passer au « Ça joue ou bien », le segment dans lequel on va vous parler des jeux auxquels on s'adonne sur le temps libre, qui sont souvent d'ailleurs des jeux d'actualité.
Souvent.
Pas tout le temps, mais on profite aussi pour se tenir informé.
Il paraît que toi, ton jeu, là, n'est pas d'actualité.
Oh non, mais on
enfin,
se fait...
il a une actualité.
Il a une actualité, mais c'est un jeu qui n'est pas du tout actuel, mais on cause de ça juste après cette petite coupure musicale. C'est l'heure du « ça joue ou bien ». Thomas, à quoi tu as pu t'adonner pendant ces dernières semaines ?
Alors, ces derniers temps, j'ai commencé, beaucoup joué et terminé le dernier jeu From Software en date, Armored Core 6, Fire of Rubicon.
Rubicon.
Tu savais que quand t'es Rubicon en jeu de cartes, c'est que... Enfin bref, je crois que c'est un terme de jeu de cartes, Rubicon. Être Rubicon.
Je ne savais pas.
Voilà. Donc j'ai fait Fire of Rubicon, le nouvel Armored Core, qui est donc un jeu de robot, de mecha design japonais, qu'on doit au fameux studio From Software et à son directeur créatif Miyazaki. Et alors, je voulais le dire tout de suite, c'est pas du tout un Soulsborne-like. On est dans un genre complètement différent. Comme son nom l'indique, Armored Core, c'est une longue série de jeux de From Software, puisqu'on est au 6e épisode. Et traditionnellement, pour chaque épisode, il y a toute une série d'extensions qui fait suite à l'histoire de l'épisode numéroté. Et donc là, on se retrouve dans un jeu d'action, très très nerveux aussi. C'est le point commun peut-être avec Doom qu'on évoquait juste avant. C'est un jeu qui...
Très très dur, probablement.
Très très dur, c'est relatif. Parce que une des mécaniques fondamentales de Armored Core, c'est le Pimp My Mecha. Donc tu vas vraiment, au fil des missions, récolter de l'argent. Et cet argent va te permettre de débloquer des éléments de ton mecha. Donc ça va de la puce qui booste ton OS, au moteur, au propulseur, aux armes d'épaule, aux armes de poing, aux jambes, au torse et à la tête du robot, les bras aussi. Donc tu peux vraiment faire un mecha de A à Z comme bon te semble au fil des missions et au fil des éléments qui se débloquent. Et le jeu au début est assez difficile, c'est vrai.
Il y a une porte d'entrée, un petit peu comme dans les autres jeux du studio.
Il y a une porte d'entrée.
Si j'y ai pas joué, mais ce que j'en ai entendu, ça allait quand même dans ce sens.
Alors, ça m'a pas autant paru insurmontable que dans certains FromSoft. J'ai rarement buté sur un boss très longtemps. parce que tu as toujours une stratégie assez évidente qui te permet, après avoir essayé 2-3 trucs, tu te rends compte qu'il y a une faiblesse qui est assez évidente que tu vas pouvoir exploiter. Et après quelques missions un peu difficiles, que tu peux répéter aussi pour accumuler de plus en plus de thunes, ben tu vas pouvoir débloquer des armes qui sont hyper puissantes. Et moi, j'ai assez rapidement trouvé une composition pour un mecha qui non seulement était hyper stylé visuellement, avec deux gros canons laser sur les épaules symétriques qui s'activent d'une manière... c'est du porno. En gros, ce jeu, pour moi, c'est du porno parce que ben, j'aime les robots, voilà. J'aime le mecha design japonais. Donc non seulement mon robot était très très beau, mais en plus de ça, il était très très puissant, avec deux shotguns, un dans chaque main, et ces deux canons laser sur les épaules, j'arrivais à dégommer les ennemis assez facilement.
Je suis désolé, ça me fait un peu rire, parce que donc Thomas est en face de moi, et il me regarde avec ses yeux d'enfant, en me disant « moi j'aime bien les robots, mon robot, c'était le plus beau et c'était le plus fort ». Un jour, je crois qu'on mettra l'image sur ce podcast pour que vous puissiez profiter aussi de ça.
Mais j'ai trouvé que le jeu était ultra satisfaisant manette en main. J'y ai joué sur PlayStation 5. Alors, les retours haptiques ne sont pas autant grisants que sur un Returnal, mais il y a quand même de très très bonnes sensations. Donc, c'est exigeant. Le timing est ultra serré à chaque fois. On retrouve, bien sûr, une forme de persévérance indispensable, comme à tous les jeux From Software. Les missions sont assez courtes, qui s'apparentent presque parfois à du boss rush, un peu à la Sekiro, mais instancé, quelque part. Les décors sont somptueux. J'adore le gigantisme. Je parlais du gigantisme dans Doom, alors là, c'est encore une autre échelle. C'est-à-dire
t'as des forteresses qui font 1000 fois ta taille.
Exactement, et que tu vas pénétrer. Parfois, tu vas t'enfoncer dans les profondeurs de forteresses, et quand tu penses être arrivé au fond, bah, tu t'enfonces encore. Il y a vraiment des décors qui sont magnifiques. Graphiquement, c'est pas un jeu qui est le plus beau jeu de l'année, mais c'est pour moi...
C'est jamais vraiment le cas avec le studio, d'ailleurs.
C'est ça, et c'est la bonne démonstration après Elden Ring que la beauté d'un jeu ne tient pas du tout uniquement en la finesse de ses graphismes, mais c'est l'univers, c'est l'atmosphère, et là, ils parviennent à créer une forme d'ambiance apocalyptique futuriste que j'adore, et il y a en plus tout ce côté nippon qui me parle aussi avec... un scénario très très cryptique, un scénario qui est très développé, politique, mais qui est aussi abscon et aussi sibyllin que le scénario d'un Ghost in the Shell, par exemple, le film de Mamoru Oshii. Donc il ne faut pas trop chercher à comprendre tous les rouages des intrigues politiques parce qu'on joue une forme de mercenaire qui est embauché par une compagnie contre une autre, et il y en a une troisième qui arrive dans l'équation. Il y a quand même des moments scénaristiques importants et assez marquants, mais tout ça est, et c'est ça qui donne son charme, je trouve, à ce scénario et à cette ambiance, c'est que tout ça est crié avec des voix nippones ultra agressives.
Ultra shonen,
c'est
presque.
Ça, dans tes missions, et pour moi, il y a une immersion de chaque instant, aussi bien en jouabilité qu'en atmosphère sonore. J'ai vraiment adoré. J'en attendais pas autant. C'est le premier Armored Core que je faisais.
Je pense que d'ailleurs, ça va être le premier Armored Core de beaucoup de gens parce que c'était une série qui était assez méconnue. C'était une série de niche.
Et là, From Software a
est
connu après Elden Ring. Je pense que des gens y ont joué uniquement parce que c'était le nouveau jeu
Software. Je pense. D'ailleurs, c'était je pense que c'était la stratégie de Hidetaka Miyazaki, c'est que lui, c'était un projet de cœur, il voulait faire revivre la série.
Ouais. Et ça se voit.
Et quel meilleur moment que maintenant, après le succès de Dark Souls, de Bloodborne, de Sekiro, d'Elden Ring, évidemment.
Ouais. Donc il n'y a pas du tout de mécanique aussi punitive que celle des âmes que tu perds dans un Soulsborne-like, mais tu sens quand même que ce qui intéresse Miyazaki, c'est le timing, c'est la précision de la jouabilité, c'est les patterns des boss.
C'est le retour globalement à un gameplay un peu moins assisté qu'on peut le voir dans les productions triple A actuelles.
Tout à fait. Et c'est un jeu qui offre une bonne rejouabilité au sens où tu peux faire le méca de tes rêves. Tu peux faire le jeu de manière complètement différente en fonction du robot que tu crées.
Mais alors justement, comme tu disais que chaque boss a comme une sorte de stratégie qui est préférentielle, est-ce que tu peux quand même faire un petit peu ce que tu veux et t'en sortir quand même? Parce que moi, c'est un petit peu, avec tous les avis que j'ai pu lire et écouter là-dessus, c'est un petit peu ça qui ressortait. C'est que on te donne beaucoup d'outils, mais tu peux pas vraiment en faire ce que tu veux parce que le jeu t'indique que ce boss-là, il va peut-être falloir y aller comme ça.
Franchement, j'ai entendu beaucoup de bêtises sur le jeu. Et pourtant, des gens qui sont des habitués des jeux From Software qui disaient « Ah, il faut prendre... » Assez rapidement, des gens qui ont parlé d'une strat qui consistait à prendre deux miniguns dans chaque bras et de plutôt que des jambes, de mettre le cul d'un tank en bas de ton robot et qui te permettait de rouler sur le jeu et qui était un peu la strat passe-partout. Et sinon t'étais dans la merde si tu faisais pas ça. Moi j'ai jamais utilisé cette stratégie là, j'ai choisi mes canons laser parce que je les trouvais beaux et puis j'ai pratiquement fait l'entier du jeu avec mes canons laser qui étaient beaux. Donc non, je pense vraiment que le jeu offre beaucoup plus de souplesse que ce que certains ont bien voulu prétendre et je l'ai vraiment pas trouvé si difficile que ça. Il y a peut-être un aspect qui est un peu coriace, c'est le fait que tu vas pouvoir changer ta composition de ton robot au cours d'une mission, mais seulement avec les objets que tu as déjà achetés. Si tu veux retourner à la boutique pour acheter des armes...
Tu dois quitter l'instance et tu dois recommencer.
C'est ça. Et là, tu recommences plus au checkpoint, tu recommences au tout début de la mission. Mais bon, les missions sont rarement très très longues. Je pense que la mission la plus longue dure une quarantaine de minutes, c'est tout. Sinon, beaucoup de missions sont faites en 10-15 minutes. Il y a des arènes aussi que j'ai adoré faire contre des ennemis uniques dans une forme de simulation avec des grades qui croissent au fil des robots que tu vas affronter. Tu commences, je crois, en D et tu finis en S. Et là aussi, c'est des moments qui réservent de très 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 bonnes une sensation. J'aimerais bien essayer le multijoueur auquel j'ai pas encore pu m'adonner parce que j'ai le jeu sur PlayStation.
Multijoueur compétitif, donc.
C'est ça. Mais je pense que ça peut vraiment valoir le détour avec une bonne connexion parce que le jeu offre énormément de possibilités différentes. Donc voilà, Armored Core 6, Fire of Rubicon.
Rubicon.
C'est ça. Pour moi, c'est un peu le meilleur jeu en termes de sensations que j'ai fait pour l'instant cette année.
Ok. Où j'ai cru que t'allais dire le meilleur jeu From Software, ça m'aurait étonné venant de toi qui joue un culte à Elden Ring.
De toute façon, ça la comparaison n'entre même pas vraiment.
Ouais, c'est vraiment un jeu différent qui est probablement plus proche de Sekiro qu'autre chose, et encore.
Et encore. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que s'il fallait vraiment le rapprocher d'un From Software,
le placer dans la ludographie,
ce serait Sekiro.
Dans la ludothèque.
Si vous aimez les futurs apocalyptiques un peu mélancoliques avec cette poésie de destruction et le mecha design porn, précipitez-vous parce que c'est jouissif. Et toi ?
Alors moi, rien à voir, et tu l'as évoqué juste avant la pause musicale, c'est un jeu, enfin j'ai joué à plusieurs jeux, mais qui sont tous reliés les uns avec les autres, mais alors pas des jeux récents, puisque je suis tombé, la tête la première, dans la série de RPG de Falcom qui s'appelle YS, ouais, qui a commencé en 1987, donc c'est pas tout jeune. Alors j'ai évidemment pas joué aux versions d'origine, puisque non seulement elles n'étaient pas forcément toutes sorties en Occident, et en plus c'était sur des supports dont on n'a pas vraiment l'accès maintenant, puisque c'était sur les ordinateurs de l'époque. Mais j'ai joué aux versions qui sont sur Steam, qui datent, si je ne me trompe pas, de 2009, ce qui fait quand même un petit
peu. Ça remonte déjà.
D'ailleurs, les deux premiers, IS 1 et IS 2, sont souvent en bundle ensemble, parce que les jeux sont très très proches, à la fois dans leur mécanique et dans leur scénario. Donc j'ai fait IS 1 et 2, j'ai aussi fait une partie de IS Origin, qui est sortie bien plus tard, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais vers 2010, je crois, quelque chose comme ça. Et qui est, comme le nom le laisse entendre, qui est une préquelle qui se passe vraiment au tout début des événements dont on entend parler dans IS 1. Mais bon, je vais surtout me concentrer sur IS 1 et 2, qui sont des jeux assez particuliers. Alors c'est des jeux très très old school, hein, et je les ai fait avec un guide à côté parce que on est à peu près au même niveau que le premier Dragon Quest en termes de d'informations critiques et de je sais pas où aller, et surtout, en tout cas pour le 1, c'est un petit peu moins le cas dans le 2, mais en tout cas pour le 1, c'est vraiment une situation où il faut que tu puisses à peu près one-shot tous les ennemis, et ça devient juste du grind. Si tu arrives dans une zone où il y a des ennemis trop forts, c'est que tu n'es pas censé être là. Mais la principale originalité de IS 1 et 2, et les jeux suivants ont un peu abandonné ce système, en tout cas dans leurs itérations récentes, parce que quasiment tous les jeux ont été plus ou moins refaits, il n'y a que le 5 qui n'a jamais eu de portage, en tout cas parmi les vieux. Donc la particularité de IS 1 et 2, c'est que c'est un un action RPG. Mm-hmm. Donc tu contrôles ton personnage qui va se balader dans des villages et dans des plaines, un petit peu à la manière d'un Zelda. Sauf que les combats ne se font pas du tout au tour par tour, ils se font en temps réel. Tu croises les ennemis sur la map et ton personnage, donc le fameux personnage récurrent de toute la série qui s'appelle Adol Christine, qui est ce fameux héros aux cheveux rouges, il a une épée, sauf que tu n'appuies pas sur un bouton pour faire valdinguer ton épée. Le IS 1 et 2 ont ce, qui est ce que le jeu appelle le bump système, c'est-à-dire que tu dois foncer dans les ennemis pour leur infliger des dégâts.
C'est des auto-tamponneuses.
C'est ça, mais avec un minimum de subtilité quand même, c'est que tu peux pas y aller face à face parce que sinon tu te prends aussi beaucoup de dégâts. Tu peux pas tout à fait y aller dans le dos ou sur le côté non plus parce que il y a un risque que l'ennemi se retourne, mais il faut y aller un petit peu en diagonale, il faut y aller vu de trois quarts. Alors c'est beaucoup plus facile, en tout cas de ce que j'ai lu, c'est beaucoup plus facile avec les versions récentes du jeu, parce que le tout premier jeu à l'époque tu pouvais pas te déplacer en diagonale, donc il fallait vraiment y aller de face mais un tout petit peu décalé sur le côté. Là c'est quand même un petit peu plus simple, j'ai joué dans une des difficultés faciles, je crois qu'il y a 5 niveaux puis j'ai pris le deuxième niveau. Donc c'est pas trop dur, si t'as un guide sous les yeux tu t'en sors quand même, mais c'est un jeu qui est hyper plaisant parce que c'est très rapide. Le premier jeu tu peux aller jusqu'au niveau 10 maximum et puis t'es au niveau cap. Le premier jeu je crois que je l'ai fait en 4-5 heures, donc c'est très très rapide.
Des bons clients pour une génération de retard, ça.
C'est fort possible, peut-être pas tout de suite, mais ça va peut-être venir. Et le deuxième est un petit peu plus long, et le deuxième est globalement, je faisais le parallèle avec Dragon Quest, c'est un petit peu la même chose. Dragon Quest 2, c'était Dragon Quest 1 en plus, t'avais plus de héros, plus de villages, plus d'ennemis. Bah là c'est pareil, tu diriges toujours le même héros directement à la suite des événements du premier, mais t'as plus d'endroits, t'as plus de variété d'ennemis, t'as un level cap qui est augmenté, t'as de la magie que tu n'as pas dans le 1. Mais c'est des jeux qui sont hyper plaisants à faire si tu sais dans quoi tu t'embarques. C'est old school mais suffisamment plaisant pour qu'on soit pas trop rebuté par la difficulté, et surtout les musiques. Alors la raison pour laquelle je me suis plongé là-dedans, c'est que je me suis mis à écouter dans le train, puisque ouais, comme je disais, j'ai pas de voiture, moi je prends le train. Voilà. Je me mettais à écouter les bandes-sons de différents jeux de Falcom, qui sont à peu près toutes disponibles
avant d'avoir joué
sur Spotify, avant d'avoir joué au jeu. Et ça tabasse. Alors, c'est pas rien à voir avec l'OST Doom. De Doom, mais le groupe musical résident de Falcom fait vraiment un travail phénoménal sur les ambiances de ces jeux. C'est d'ailleurs souvent les points positifs qui ressortent quand on parle de IS ou des autres jeux du studio.
Jusqu'au dernier qui vient de sortir.
Jusqu'au dernier qui vient de sortir au Japon, donc IS 10 Nordics. C'est vraiment des super BO. J'ai plusieurs morceaux qui me sont vraiment restés en tête et qui sont maintenant dans mes morceaux favoris d'OST de jeux vidéo. Donc ça, c'est vraiment des jeux qui ont un charme assez particulier. C'est très coloré, les versions en tout cas actuelles avec une haute résolution, en tout cas une adaptation aux écrans de maintenant. C'est très coloré, c'est très joli à regarder. Les sprites sont tout à fait charmants. Et voilà, c'est des jeux qui se font très vite. Et qui, je trouve, offre une bonne porte d'entrée à l'univers de cette série, parce que ça m'a donné envie de continuer. Donc là, je suis sur IS Origins, qu'on peut faire trois fois un petit peu à la manière d'un Nier Automata pour voir toutes les facettes du scénario, puisqu'il y a trois personnages différents. Et je pense enchaîner après avec le 8, qui est le premier des jeux vraiment tout en 3D, le premier des jeux qui sont très très récents et qui me donne envie. Je suis assez client de ce genre de jeu avec un système de combat très orienté action, un petit peu comme Tales of, mais encore plus action. Donc non, vraiment bonne découverte, et effectivement peut-être qu'on en entendra parler dans le futur dans ce podcast.
En tout cas, sachez que je les ai déjà achetés.
Évidemment.
Voilà. Alors, je crois qu'on arrive au bout de ce podcast.
Il me semble bien.
Qui était consacré à un peu de violence et un peu de scénario d'un côté et de l'autre. On se donne rendez-vous dans un mois environ.
Oui, d'ailleurs, on peut peut-être en profiter pour préciser que c'est probablement le dernier épisode de 2023.
C'est juste.
Si tout va bien, on devrait être diffusé pour cet épisode vers le milieu, fin du mois de décembre.
Voire si tout va bien. Début du mois de janvier. Seuls les dieux de Semper Ludo connaissent la réponse à cette question.
Mais on a une confiance absolue en,
bien évidemment,
en eux, et on ne se doute pas qu'ils nous sortiront pour les fêtes.
Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode, à nous dire ce que vous en avez pensé. Lâchez vos coums. On remercie Semper Ludo aussi pour l'hébergement du podcast. Et on se retrouve dans à peu près un mois, quelle que soit la période à laquelle ce podcast sortira, pour deux nouveaux jeux, peut-être un peu moins liés thématiquement,
ouais,
que les deux derniers épisodes, mais de nouveau pour deux découvertes pour les deux Thomas.
C'est exact. On vous dit à bientôt et on se réjouit de vous retrouver pour un prochain épisode. Bye bye.
Ciao.